C'est un homme à la destinée singulière dont nous allons parler ce matin, D'Artagnan. Un homme à la fois universel et mystérieux, plus connu pour ses aventures fictives que pour ses faits d'armes réels. Et c'est cela que tente de corriger un documentaire diffusé demain soir sur Arte, le titre « La véritable histoire de D'Artagnan ». Une enquête historique qui dresse le portrait de ce mousquetaire connu dans le monde entier, un enfant de Gascogne à l'ascension fulgurante, jusqu'à devenir l'homme de confiance du souverain le plus puissant d'Europe, Louis XIV. Bonjour Augustin Viat.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous êtes le réalisateur de ce documentaire, écrit avec Caroline Vermal et Jean de Garrigue. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la vie du vrai D'Artagnan, le faux D'Artagnan ?
C'est peut-être le faux D'Artagnan, en tout cas c'est l'effet de frontière ou de contraste entre les deux. Bien sûr, il y a cette figure populaire qui est très excitante, qu'on croit tous connaître. Et quand on m'a proposé de faire ce film, puisque c'est Stéphane Milliard, le patron de Gédéon Programme, qui me l'a proposé avec Arte, moi j'ignorais que D'Artagnan avait vraiment existé. Donc il y avait la séduction du cinéma, et puis derrière le mystère de l'histoire, l'enquête qu'il fallait mener pour arriver à l'identifier et à remonter toutes les pistes qui pouvaient mener à ce personnage historique.
Évidemment, dans votre film, il y a des images de cinéma. Alors, en quelques mots et sans dévoiler tout votre film, est-ce que vous pouvez nous situer D'Artagnan dans l'histoire ? Qui était-il ?
C'était un Gascon, d'abord, au tout début du XVIIe siècle. C'était un enfant de la campagne. Et à l'époque, la Gascogne était une région très pauvre et la seule perspective d'avenir pour les jeunes paysans, c'était de monter à Paris et d'intégrer les armées du roi. Donc toute son histoire s'inscrit au fil de ce XVIIe siècle français qui est une période très tourmentée avec une contestation du pouvoir royal, une période de bascule sur laquelle on reviendra peut-être qui s'appelle la Fronde, qui est comme une espèce de mini-révolution française avant l'heure. Et D'Artagnan va connaître une ascension sociale fulgurante, puisque ce petit paysan de Gascogne va devenir l'homme de confiance de Louis XIV, qu'il a connu quand il était encore enfant, puisque il y a eu toute cette période de régence après la mort de Louis XIII, où Louis XIV était trop petit pour prendre le pouvoir.
Alors, votre film est construit comme une enquête menée par plusieurs historiens, par une historienne en particulier, on va y revenir. Et cette enquête, vous la commencez avec un livre, celui qui a fait connaître D'Artagnan dans le monde entier, « Les trois mousquetaires » d'Alexandre Dumas. Que dit Dumas de D'Artagnan ?
Dumas, il en fait un personnage virevoltant, flamboyant, séduisant, un séducteur un peu insouciant, un aventurier, charmeur. Mais ce qui est amusant, c'est que Dumas lui-même s'est inspiré d'un autre livre. Et que quand il commence son bouquin, il va déjà se réapproprier un personnage.
Exactement. Et ce livre, ce sont les mémoires de Monsieur D'Artagnan, de Courtil de Sandras. On se dit alors, c'est simple, D'Artagnan a fait écrire ses mémoires, on va tout savoir de lui. Eh bien, pas du tout. Et c'est ce qu'explique l'un de vos historiens enquêteurs, Jean-Christian Petit-Fils.
C'est un roman un peu picaresque, avec des aventures singulières qui arrivent à D'Artagnan. Mais en réalité, c'est un récit écrit à la première personne qui est très romancé parce que Courtil ne dispose pas de suffisamment de matériaux pour écrire une vie authentique de D'Artagnan.
Et là, donc, on se dit que l'enquête ne va pas être simple puisqu'on n'a pas assez de matériaux.
C'est-à-dire que ce livre, Les Mémoires de D'Artagnan, à la fois, il contient des indices qui sont bien réels. Il a été écrit en 1700, donc à peu près 25 ans, 27 ans après la mort du vrai D'Artagnan. Et en même temps, son auteur, Courtil de Sandras, romance lui-même l'histoire. C'était une sorte de biographe de l'époque qui faisait des biographies romancées des personnages historiques de son temps. Et il multiplie des intrigues totalement farfelues qui n'ont rien à voir avec la réalité historique. Pour l'anecdote, ce qui est amusant, c'est que Dumas trouve ce livre par hasard. Il le déniche dans une bibliothèque. Il le parcourt rapidement, il voit les noms de Athos, Porthos, Aramis, qui était d'ailleurs le premier titre des Trois Mousquetaires, Et il se dit, tiens, ça me paraît intéressant, mais à ce moment-là, il travaille sur des tas de projets différents, il a plein de collaborateurs, et il revient à Paris, il donne ses volumes des Mémoires de D'Artagnan à l'un de ses collaborateurs, qui s'appelle Auguste Maquet, en lui disant, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut pas faire un truc avec ça? Et l'autre lui dit, oui, c'est très intéressant, il faudrait souligner le côté historique, amener les personnages de l'époque, etc. Et il va en faire complètement autre chose, parce que Dumas, c'est un génie.
Artos, Porthos et Aramis, dont je pensais qu'ils avaient été inventés comme Riri, Fifi et Loulou, alors que je savais que D'Artagnan avait réellement existé. On vient d'entendre l'un des historiens que vous interrogez dans le documentaire, et également Julien Villemart, spécialiste des mousquetaires, et puis Odile Bordaz, qui est en quelque sorte le pivot de votre film. C'est avec elle que vous allez sur les terres natales de D'Artagnan en Gascogne. C'est elle qui nous parle de son enfant, celle de D'Artagnan, grâce à un documentaire historique, l'inventaire des biens de la famille. Il est dressé après la mort du père de D'Artagnan en 1635. Que nous apprend cet inventaire?
Alors c'est un des documents effectivement qui nous renseigne beaucoup. À l'époque, quand un personnage mourait, on dressait la liste de ses biens, et à travers cette liste exhaustive de tout ce qui était dans la demeure familiale de D'Artagnan, on comprend le mode de vie de la famille à l'époque, on comprend quelle pouvait être l'éducation des enfants. Et Odile Bordaz, qui est une historienne totalement passionnée, habitée par ce personnage, moi je la soupçonne d'être presque amoureuse de D'Artagnan, elle est infatigable, elle continue à chercher aujourd'hui, en décryptant ce document, elle arrive à en tirer des conclusions, des informations sur ce que pouvait être notamment l'enfance de D'Artagnan, ce qui est un épisode que Dumas ne traite pas dans le roman.
Alors à son enfance, à son adolescence, D'Artagnan ne s'appelait pas encore D'Artagnan, mais comment s'appelait-il? Réponse juste après ça, on continue d'en parler avec vous, Augustin Viat, vous êtes le réalisateur de ce documentaire, La véritable histoire de D'Artagnan. Culture Média continue.
Eurodel.
En compagnie d'Augustin Viat, réalisateur de La véritable histoire de D'Artagnan, c'est un documentaire qui va passer demain soir à 20h50 sur Arte et qu'on peut voir dès maintenant sur arte.tv. On l'a dit, enfant, adolescent, D'Artagnan ne s'appelait pas encore D'Artagnan, mais Charles de Batz de Castelmaur. D'où vient le nom de D'Artagnan? Réponse d'Odile Bordaz dans son récit, dans le récit de cette historienne. On est alors en 1633 et le jeune Charles vient d'être accepté dans la compagnie des mousquetaires.
Il va être présenté au roi Louis XIII, au Louvre, et c'est Louis XIII qui, à ce moment-là, aurait demandé au jeune Charles de prendre le nom de D'Artagnan, qui est le nom de sa famille maternelle, bien connu à la cour, ce qui, évidemment, pour un jeune gentilhomme, même venant d'une province déshéritée, c'est une chance inespérée.
Donc voilà, D'Artagnan, mousquetaire du roi, c'est là qu'il rencontre, alors encore de la taxinomie des noms, Athos, Porthos, Aramis, les trois mousquetaires, ils ont réellement existé, vous nous l'avez dit, ils ont réellement existé sous ce nom-là?
Alors ils ont existé presque sous ce nom-là, il y a des petites variations, en fait, Dumas a un peu adapté leur nom. On n'est pas persuadé que D'Artagnan les a connus, ou en tout cas qu'il était leur meilleur pote. On sait qu'ils étaient dans la compagnie, et ils étaient tous les quatre avec lui, originaires de Gascogne, donc de Gascogne ou du Béarn.
Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur eux, ils ont une image romantique, de combattants virevoltants. Qui étaient-ils et quel était leur rôle?
Les mousquetaires en général, et Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan lui-même, sont tous, quand ils arrivent à Paris, ce qu'on appelle des cadets. C'est-à-dire qu'ils doivent, des cadets de Gascogne, ils doivent faire leurs armes, faire une sorte d'apprentissage d'école militaire avant d'intégrer les rangs des mousquetaires. Et les mousquetaires sont la garde rapprochée du souverain. À l'époque, c'est Louis XIII, hein, au début, au milieu des années 1630. Et D'Artagnan devient mousquetaire sous Louis XIII, même si l'essentiel de sa carrière va se faire sous Louis XIV.
Ils ont une image romanesque, romantique, et on découvre dans votre film que c'est aussi des hommes jeunes, mais violents quand même.
Oui, c'est ce que nous explique notamment Olivier Renaudot, qui est un merveilleux conservateur du musée de l'armée. Il nous dit, ils sont turbulents, il logeait chez l'habitant à Paris, donc ça il faut imaginer, il logeait chez les bourgeois, c'était une forme d'impôt, on devait loger comme ça des militaires, et ils étaient querelleurs, batailleurs, ils faisaient beaucoup de bruit.
Ouais. Et puis on apprend aussi, alors là aussi je tombais de ma chaise, que leur devise n'était pas un pour tous, tous pour un.
Non, la vraie devise de la compagnie dans laquelle D'Artagnan était, la compagnie mousquetaire, c'était en latin « Quoruit et letum », ce qui veut dire « là où elle passe, la mort s'abat ». Et c'était une devise représentée par un blason avec un mortier, donc un canon qui tire un boulet et qui va tomber sur une ville assiégée. Et c'est une devise qui exprime bien toute la violence en fait de ce corps militaire. Les mousquetaires, c'est pas seulement le romantisme que Dumas leur prête, c'est la force armée, le bras armé du pouvoir.
Et vous citez notamment le fait que D'Artagnan ait participé à un massacre, celui commis lors de la répression d'une révolte dans le Vivarais, ce qu'on a écrit l'Ardèche aujourd'hui. Alors D'Artagnan a des qualités militaires, des qualités humaines, il est remarqué par Mazarin, dont il devient un homme de confiance, notamment pendant la fronde dont vous parliez. À cette époque, il transporte des lettres, des messages codés qu'on voit dans votre documentaire, mais au-delà de ce code, et comme souvent avec les archives, c'est pas facile de trouver le nom de D'Artagnan. Exemple avec cet extrait dans lequel on entend Jean-Christian Petit-Fils et l'historienne Camille Desenclos.
Je pense que nous n'avons pas D'Artagnan ici.
On va bien finir par le trouver, ce D'Artagnan, quand même.
Oui.
Parce qu'il était au cœur de tout le dispositif. Ah, bon. Voilà. D'Artagnan, HR 130, 56, 105...
X. Donc là, on est sur une dépêche. Donc, du 11 juin 1653, très clairement rédigée par Mazarin. Donc, je vous prie de dire à D'Artagnan qu'il prenne ses précautions afin qu'il ne lui arrive pas quelques malheurs.
Non, c'est ça où vraiment les choses sont très intéressantes pour l'historien, parce que on voit le cachet. Moi, ça m'est arrivé de voir de la poudre d'or ou de poudre de sable qui
est restée.
Là, on touche vraiment très près l'histoire.
Oui, hein. Oui.
Vous étiez à côté, Augustin Viat, avec la caméra. C'était également émouvant pour vous de voir ces archives.
C'est merveilleux, les archives. C'est une chance. Ça fait partie des grands bonheurs de mon métier, d'assister, de découvrir des documents comme ça, surgis du passé. Le bruit du papier, on ouvre ces gros volumes. Et là, en l'occurrence, ce sont des lettres codées. Donc, tous les noms des personnages sont remplacés par des numéros. Il faut arriver à déchiffrer tout ça. Et on se dit, voilà, ça vient du XVIIe siècle.
Attendez, vous l'avez découvert en temps réel ?
Non, on savait qu'il y avait...
Vous doutiez qu'il y allait avoir quelque chose là ?
Oui. Mais par contre, on ne savait pas exactement dans quel volume, et puis il fallait retrouver le nom de D'Artagnan. Et même si Jean-Christian Petit-Fils a consulté ses documents à plusieurs reprises, moi j'ai pris un malin plaisir à ne pas lui indiquer la page sur laquelle se trouvait le nom du personnage, pour qu'il puisse tourner les pages du volume en cherchant vraiment. Donc là, c'est pas de la simulation.
Alors, il y a peu d'archives sur D'Artagnan. Il y a une archive qui apporte beaucoup d'éléments, beaucoup d'infos sur lui. Ce sont les minutes du procès de Nicolas Fouquet, l'ancien ministre des Finances de Louis XIV.
C'est D'Artagnan qui est chargé de cette arrestation délicate.
Il a fait de l'ombre au souverain. Et Louis XIV, par une lettre de cachet, a décidé de l'enfermer, de le faire disparaître de la circulation.
De l'arrêter, etc. Pour une raison simple, c'est que Fouquet, dont on connaît le magnifique château de Vaux-le-Vicomte, dans lequel tous les entretiens du film ont été tournés, tous ces beaux décors qu'on voit derrière nos historiens, c'est à Vaux-le-Vicomte. Fouquet était très riche, il avait ce magnifique château, à l'époque Versailles n'existait pas, et Louis XIV se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce ministre
Il
s'est senti presque humilié, et aussi menacé dans son pouvoir.
J'en viens à D'Artagnan. D'Artagnan l'arrête et le garde.
Il le garde, il va devenir son geôlier pendant plus de 3 ans, ce qui n'est pas forcément une mission très amusante. Hein. Le geôlier d'un prisonnier, c'est presque être prisonnier soi-même. Donc pendant près de 3 ans, il va assurer la garde de D'Artagnan et il va se montrer à cette occasion particulièrement humain et bienveillant, attentif aux besoins de son prisonnier, même s'il exerce une garde sévère et rigoureuse. Il va lui donner ce dont il a besoin et rester à ses côtés toute cette période.
Alors vous avez dit qu'il était dur, c'est aussi des Ils exécutaient les basses œuvres, ces mousquetaires. Il était humain. On va revenir aussi à l'image populaire, romanesque, des mousquetaires créés par Alexandre Dumas. Des séducteurs, des hommes volages. C'est sous ces traits que D'Artagnan est présenté dans Les Trois Mousquetaires, puis dans les films qui ont été tirés du livre. Est-ce que c'était réellement un séducteur ?
Ça, on a du mal à le savoir. La théorie d'Odile, c'est de dire que s'il avait eu des aventures extra-conjugales ou des amantes à droite à gauche, on en trouverait la trace dans les archives de l'époque. Et c'est pas le cas.
Ouais.
Donc on sait qu'il était marié. Il s'est marié assez tard. Après, c'est un militaire qui sillonnait les provinces françaises. On sait que c'était un bon vivant. C'était pas le dernier à faire la chouille, à boire des bons coups avec ses hommes, avec sa compagnie. Et certainement que il a dû connaître d'autres femmes que son épouse.
Il était marié avec Charlotte Anne de Chancy, son épouse. Je vous cite, une femme trop amoureuse de son mari, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que D'Artagnan l'a épousée parce que c'était une bourgeoise de Bourgogne qui avait de la fortune. D'Artagnan, lui, avait peu d'argent, ou en tout cas dépensait énormément, notamment pour ses hommes, parce que c'est lui qui s'occupait des costumes, d'acheter des accessoires pour sa compagnie, pour que ses mousquetaires soient prestigieux. Et cette femme était un peu envahissante, d'après ce qu'on sait. Elle le suivait partout, et au bout d'un moment, D'Artagnan a demandé à Louis XIV de la renvoyer sur ses terres de Bourgogne.
D'un mot, on ne sait pas où elle est enterrée, mais votre enquête mène à un lieu qu'on ne va pas dévoiler. Il faudra regarder votre documentaire pour le savoir, où est enterré D'Artagnan. Merci beaucoup Augustin Viat, la véritable histoire de D'Artagnan, demain soir à 20h50 sur Arte, à voir dès maintenant sur arte.tv, doc dont le texte est dit par Benjamin Laverne, dont on parlera tout à l'heure dans l'émission de la Comédie Française, qui ne gâche rien, et j'apprends que la chouille est un mot gascon, ce qui n'est pas vrai, mais je le dis quand même. Dans un